Yevnir Yiyeyon Yegin, chapitre 3. Où vas-tu, oh les poètes? Adieu, Yegin, il est temps. Oh, je ne te retiens pas, mais où passes-tu toutes tes soirées? Ben, chez les larines. Voilà qui est étrange. Et quoi, tu n'as pas conscience de tuer ainsi ton temps? Pas le moins du monde. C'est incompréhensible. Oh, je vois d'ici ce que c'est. Écoute, et tu me diras si j'ai pas touché juste. Une simple famille russe, un empressement obséquieux pour les visiteurs, des confitures, l'éternel sujet de conversation, la pluie, le chanvre, le bétail. Bon, ben je ne vois pas grand mal à cela, mais l'ennui, voilà le grand mal. Bon, je déteste votre monde élégant, je préfère le cercle intime où je puis... Ah, une autre églogue, finis donc. Mais puisque tu es décidé à partir, ne pourrais-je pas aussi voir cette Phyllis, objet de tes pensées, de tes larmes, de tes rimes, etc. Présente-moi. Oh, tu te moques, mais nullement, dis-moi quand il faut nous mettre en route. Bon, ben, tout de suite, nous recevons avec plaisir. Les amis partent, ils arrivent, ils se présentent. On étale devant eux le lourd attirail de la vieille hospitalité. Les cérémonies de ces réceptions sont connues. On apporte des confitures sur de petites assiettes. On pose une large scarve d'eau de cassis sur une table recouverte de toiles cirées, etc. Pendant qu'ils reviennent au galop de leur attelage, écoutons la causerie des deux amis. Eh bien, Yegin, tu bailles. Oh, c'est d'une habitude, Lenski. Tu parais plus ennuyé qu'auparavant. Non, non, ni plus ni moins. Mais il fait déjà sombre. Allons, fouette tes chevaux, Andrushka. Oh, quel stupide pays nous traversons. À propos, la vieille Larine est bien simple, mais c'est une gentille petite vieille. J'ai peur que son autre cassis me fait mal. Laquelle des deux est Tatiana? Oh, celle qui, mélancolique et silencieuse comme Svetlana, est assise près de la fenêtre en entrant. Bon, est-il possible que tu sois amoureux de l'autre? Pourquoi non? Bon, moi j'aurais choisi la Tatiana si j'étais comme toi un poète. Il n'y a pas de vie dans les traits d'Olga, pas plus que dans ceux de la Madone de Vandyck. Elle est ronde et rouge de visage comme cette sotte lune sur ce sot horizon. Vladimir répondit sèchement et n'ouvrit plus la bouche jusqu'au logis. Cependant, l'apparition d'Onyegin chez les Larines produisit à la ronde une grande impression et mit le trouble chez tous les voisins. Les conjectures se suivirent à la file. Tous s'empressèrent de juger le fait avec force chuchotement et plaisanterie. Tatiana avait trouvé son fiancé. Il y en avait qui allaient jusqu'à affirmer que le mariage était complètement arrangé et que, s'il ne l'était pas fait encore, c'est parce qu'on n'avait pas pu se procurer des anneaux assez élégants. Quant au mariage de Lenski, c'était pour eux et dès longtemps chose convenue. Tatiana écoutait ces caquets avec dépit. Mais la pensée qu'ils éveillaient en elle et qui revenait involontairement lui causait une épouvante mêlée de charme. Son temps était venu et l'amour était né. C'est ainsi que les feux du printemps font soudainement germer une graine qui sommeillait inerte. Dès longtemps, son imagination se consumait dans l'approche de cette crise fatale. Dès longtemps, son jeune cœur, sans attendre personne, attendait quelqu'un. L'attente s'accomplit. Ses yeux s'ouvrirent. Elle se dit « C'est lui !» Hélas, maintenant, les jours, les nuits, les veilles, le sommeil solitaire, tout est plein de lui. Tout ce qu'elle aperçoit semble lui répéter constamment et avec mystère le nom aimé. Le son des paroles caressantes de ses parents et le regard attentif des serviteurs lui sont également importuns. Elle n'écoute point les visiteurs. Elle se borne à maudire leurs loisirs éternels, leur présence contrariante et leur séjour sans fin. Quelle attention elle met maintenant dans la lecture des romans qui l'abreuvent de leurs séduisantes fictions. Tous ces fils de l'imagination, l'amant de Julie et Malek Adel et Delinard et Werther, ce martyr de lui-même et l'incomparable Grandison qui nous fait aujourd'hui si bien dormir, tous se fondirent en une seule image aux yeux de la jeune rêveuse, celle d'Onegin. S'imaginant être l'héroïne de ses histoires favorites, Clarisse, Julie ou Delphine, Tatiana erre seule, le livre dangereux à la main, dans le silence des forêts. Elle y cherche, elle y trouve le feu secret qui la consume, et ses propres rêveries. S'appropriant les transports et les infortunes d'autrui, elle murmure parmi ses soupirs une lettre destinée à son héros chéri. Mais le nôtre n'était certainement pas un Grandison. Il fut un temps, jadis, où les poètes, montant leur lyre au plus haut diapason, nous montraient dans leur héros le modèle de toutes les perfections humaines. À cet objet aimable, toujours injustement persécuté, il prêtait une âme sensible, un esprit brillant, une figure angélique. Nourrissant le feu de la passion la plus chaste, toujours en proie à l'extase, ce héros était perpétuellement prêt au sacrifice de lui-même, et à la fin de la dernière partie, le crime était toujours puni, tandis qu'une couronne digne d'elle venait toujours ceindre le front de la vertu. Maintenant, au contraire, un brouillard s'étend sur tous les esprits. La morale nous endort, et le péché, partout aimable, triomphe jusque dans le roman. Les fantômes de la muse britannique troublent le sommeil de la jeune vierge. Son idole est le vampire mélancolique, ou Melmoth, ce sinistre vagabond, ou le juif errant, ou le corsaire, ou le mystérieux Bogart. Byron, par un caprice qui a fait fortune, a vêtu l'égoïsme effréné des atours d'un langoureux romantisme. Mais moi, mes amis, je ne parle pas de la sorte. Si jamais, par la volonté des cieux, je cesse d'être poète, si un nouveau démon s'empare de moi, et si, bravant les menaces d'Apollon, je m'abaisse jusqu'à l'humble prose, alors un roman, la vieille mode, occupera mon paisible couchant. Je n'y représenterai pas, sous des formes effrayantes, les secrets tourments du crime, mais je vous raconterai simplement les anciennes traditions des familles du pays, les tranquilles agitations d'un amour légitime et les mœurs de nos ancêtres. Je répéterai les simples discours d'un père ou d'un oncle. Je dirai les rencontres arrangées d'avance des enfants près d'un ruisseau ou sous de vieux tilleuls. Je dirai les tourments imaginaires d'une jalousie sans objet, la séparation, l'absence, les larmes de la réconciliation. Je les ferai se quereller encore une fois et enfin je les conduirai à l'église. Alors je me rappellerai les paroles de l'amour anxieux qui, aux jours envolés, me venait sur les lèvres au pied d'une charmante maîtresse, ces paroles dont je suis depuis longtemps déshabitué. Tatiana, ma chère Tatiana, je pleure maintenant avec toi et sur toi, car je vois que tu as remis ton cœur aux mains d'un conquérant à la mode. Tu périras, pauvre enfant. Mais auparavant, ébloui par un mirage d'espérance, tu te consumeras, appelé un bonheur ignoré. Tu t'imagineras jouir de la vie en buvant à long trait un breuvage empoisonné qui ne serait seulement étancher ta soif. Et cependant, tu vois à chaque pas l'endroit d'une heureuse rencontre. Partout, devant toi, apparaît l'image de ton vainqueur. L'angoisse de l'amour poursuit Tatiana. Elle la chasse au jardin. Et tout à coup, fixant ses yeux immobiles, Tatiana se sent hors d'état de faire un pas de plus. Son sein s'élève, ses joues se couvrent d'un incarnat subite, la respiration s'arrête sur ses lèvres. Elle éprouve des tintements dans les oreilles, elle voit des lueurs devant ses yeux. La nuit vient, la lune fait la ronde au plus haut des cieux et le rossignol prélude sous l'ombre des arbres. Tatiana ne dort point et cause à voix basse avec sa nourrice. Je ne puis dormir, nourrice, on étouffe ici. Ouvre la fenêtre et assieds-toi près de moi. Qu'as-tu, Tania? Je m'ennuie, conte-moi quelque chose. Oh, que puis-je te confier, Tana? Il fut un temps où je gardais dans ma mémoire toutes sortes de vieilles histoires, de contes sur les méchants esprits ou sur les jeunes filles, mais maintenant, moi, tout est devenu sombre, Tania. J'ai oublié ce que j'ai su. Ah oui, le mauvais temps est venu, vois-tu, quand on devient vieux. Parle-moi, nourrice, de tes jeunes années, as-tu été amoureuse? Y penses-tu, Tania? Oh, dans ce temps-là, nous n'avions jamais ouï parler de l'amour. Sinon, feu, ma belle-mère m'aurait envoyé dans l'autre monde. Alors comment t'es-tu mariée, nourrice? Sans doute que Dieu l'a voulu ainsi. Mon Vania était plus jeune que moi, mon cœur, et pourtant je n'avais que 13 ans. La Sajka vint chez nous 2 semaines durant, et enfin mon père me donna sa bénédiction. Je pleurais amèrement de frayeur. On me défit ma tresse pendant que je pleurais, et l'on me conduisit à l'église en chantant. Et puis je fus introduite dans une famille étrangère. Tu m'écoutes point. Oh, nourrice, nourrice, je me sens mal, je souffre, je suis prête à pleurer, à sangloter. Tu es malade, mon enfant, que Dieu te prenne en pitié. Demande ce que tu veux, laisse-moi ta perger d'eau bénite, tu es toute brûlante. Non, je ne suis pas malade. Sais-tu, nourrice, je suis amoureuse. Oh, mon enfant, que Dieu soit avec toi. Et de sa vieille main, la nourrice se mit à faire des signes de croix sur la jeune fille en marmottant des prières. Je suis amoureuse, répétait Tatiana à voix basse, avec désolation. Mon cher cœur, tu es malade. Laisse-moi, je suis amoureuse. Et cependant, la lune brillait. Elle éclairait de sa faible lueur la pâle beauté de Tatiana et ses cheveux épars et les gouttes de ses larmes, et sur un petit banc au pied de notre héroïne, la vieille enveloppée d'une longue casaque, un mouchoir roulé sur la tête grise, tandis qu'autour d'elle tout sommeillait dans le calme, sous les rayons de l'astre de paix. Tatiana y fixait ses regards, et son regard, son cœur s'élançait dans l'espace lorsqu'une idée subite vint frapper son esprit. « Va, nourrice, laisse-moi seule. Donne-moi une plume, de l'encre. Approche-moi à la table. Je me coucherai bientôt. Adieu. » Et la voilà seule. Le silence l'entoure. Le coude appuyé sur la table, elle écrit. Onegin ne quitte point ses pensées et l'amour de la jeune innocente respire à chaque ligne de cette lettre irréfléchie. Elle est écrite, pliée. Oh Tatiana, que viens-tu de faire? J'ai connu des beautés inabordables, froides et pures comme la neige de l'hiver, impossibles à toucher, à séduire, incompréhensibles même à l'esprit. J'admirais leur morgue de grand ton, leur vertu de naissance. Mais j'avoue que je fuyais à leur approche, car je croyais lire avec terreur au-dessus de leurs sourcils l'inscription de la porte de l'enfer, laissez toute espérance. Inspirer de l'amour, c'est un malheur pour elles. Effrayer les hommes, c'est leur unique jouissance. Vous avez pu, cher lecteur, rencontrer de semblables sur les bords de la Neva. Entouré d'adorateurs obéissants, j'ai vu d'autres capricieuses, vaniteusement indifférentes aux soupirs et aux louanges de la passion. Que découvrais-je avec étonnement? Effrayant, l'amour timide, par une conduite farouche, elle semblait pourtant l'attirer par une feinte pitié. Tout au moins, le son de leur voix paraissait plus tendre, et dans son aveuglement crédule, le novice soupirant courait de nouveau après ce séduisant mensonge. Et en quoi donc Tatiana serait-elle plus coupable que celle-là? Est-ce parce que dans sa simplicité naïve, elle ne connaît point la ruse et se fie à ses impressions? Est-ce parce qu'elle aime sans artifice, qu'elle est confiante, que le ciel lui a donné une imagination ardente, une volonté rapide et un caractère opiniâtre avec un cœur tendre, facile à enflammer? Ne sauriez-vous lui pardonner les tourderies de la passion? Une coquette agit de sang-froid, mais ce n'est pas en plaisantant qu'aime Tatiana. Elle s'abandonne sans condition à son sentiment. Elle ne se dit pas « Un jour non, nous doublerons ainsi le prix de nos faveurs, nous attirerons plus sûrement dans nos filets, aiguillonnons la vanité par l'espérance, tourmentons le cœur par l'incertitude, puis réchaufferons-les au feu de la jalousie. Sinon, ennuyé de sa facile victoire, l'esclave rusé est toujours prêt à briser sa chaîne. » Je prévois une autre difficulté. Pour l'honneur de notre idiome national, je me sois obligé sans nul doute à traduire la lettre de Tatiana. Elle savait assez mal le russe, ne lisait point nos gazettes et avait de la peine à s'exprimer par écrit dans sa langue maternelle. De sorte qu'elle écrivit sa lettre en français. Qui fait, je le répète jusqu'à présent, l'amour de nos dames n'a pu s'exprimer en russe. Jusqu'à présent, notre fière langue n'a pu se plier à la petite prose des petits billets doux. Je sais qu'on veut maintenant forcer nos dames à lire le russe. J'en frémis sur ma parole. Puis-je me les représenter, le bien intentionné à la main? J'en appelle à vous, ô poète, mes collègues. N'est-il pas vrai que tous ces charmants objets auxquels vous avez consacré vos rimes discrètes, n'est-il pas vrai que tous sans exception, possédant imparfaitement la langue russe, la défiguraient avec gentillesse, et que dans leur bouche une langue étrangère était devenue leur langue maternelle? Pour moi, je prie Dieu de me faire la grâce de ne jamais rencontrer au bal ou sur le perron où se font les adieux un séminariste en châle jaune ou un académicien en bonnet de dentelle. Pas plus qu'une bouche rose sans sourire. Je n'aime une phrase russe sans faute de grammaire. Il est possible que, pour mon malheur, la nouvelle génération de jeunes beautés, cédant aux supplications gémissantes de nos gazettes, s'habitue à respecter la grammaire, mais moi, que m'importe, je resterai fidèle au vieil ordre de choses. Le murmure incorrect, une jolie voix, une prononciation fautive, exciteront comme autrefois un frémissement de cœur dans ma poitrine. Jamais je ne m'en repentirai, et les gallicismes auront toujours pour moi la douceur des péchés de ma jeunesse et des vers de Bogdanovitch. Mais c'est assez, il est temps que je revienne à la lettre de Tatiana. J'ai donné ma parole, et pourtant, devant Dieu, je suis prêt à y manquer. Il faudrait la plume de Parny, mais elle n'est plus à la mode. Ah, si tu étais encore avec moi, ô chantre des festins de la mélancolie, Barinski, je t'aurais fatigué de ma demande indiscrète jusqu'à ce que tu eusses consenti à prêter tes rimes enchanteresses aux paroles étrangères de la jeune amoureuse. Où es-tu? Viens, je t'abandonne tous mes droits avec un profond salut. Mais au milieu de rochers sombres et farouches, le cœur déshabitué de toute louange, tu erres seul sous le ciel rigoureux de la Finlande et ton âme n'entend point ma requête. J'ai là, devant mes yeux, la lettre de Tatiana. je la conserve avec un saint respect. Je la lis avec une sainte angoisse, et je ne puis la lire assez. Qui lui a donné cette tendresse et cette charmante négligence des mots? Qui lui a inspiré ces folies touchantes, cette conversation du cœur avec lui-même, entraînante et périlleuse? Je n'en sais rien. Mais voici une traduction incomplète et faible, comme une pâle copie d'un tableau plein d'éclat, ou bien comme l'ouverture du Freischutz sous les doigts timides d'un pensionnaire. Lettre de Tatiana. Je vous écris. Que puis-je ajouter à cela? Maintenant, je le sais, il est entre votre pouvoir de me punir par votre mépris. Mais si vous conservez une goutte de pitié pour mon triste sort, vous ne me repousserez point. J'avais commencé par vouloir me taire. Croyez-moi, vous n'auriez jamais connu la honte de mon aveu si j'avais eu l'espérance de vous voir dans notre maison de village, ne fût-ce que rarement, ne fût-ce qu'une fois par semaine, seulement pour vous entendre parler, vous dire un seul mot et puis penser, toujours penser la même pensée, nuit et jour, jusqu'à une nouvelle rencontre. Mais on dit que vous vivez retiré. Dans cet obscur village, rien ne peut vous plaire, et nous, nous ne brillons pas rien, bien que nous soyons naïvement heureux de vous voir. Pourquoi êtes-vous venu? Au fond de ma retraite ignorée, je ne vous aurais jamais connu. Je n'aurais jamais connu ces amers tourments. Ayant calmé avec le temps, en suis-je bien sûr, les agitations d'une âme inexpérimentée, j'aurais pu trouver un ami selon mon cœur et je serais devenu une épouse fidèle, une mère vertueuse. Un autre. Non, non, à nul autre au monde, je n'aurais donné mon cœur. C'est décidé dans les conseils d'en haut, c'est la volonté du ciel. Je suis à toi. Toute ma vie est une preuve certaine que je devais te rencontrer. Je le sais, c'est Dieu qui t'a envoyé à moi. C'est toi qui seras mon gardien jusqu'au tombeau. C'est toi qui m'apparaissais dans mes rêves. Inconnu, tu m'étais déjà cher. Ton regard me suivait. Ta voix résonnait dès longtemps dans mon âme. Non, ce n'était pas un rêve. À peine entré, je t'ai reconnu. Je me sentis frémir, je me sentis consumé. N'est-ce pas? Je t'avais déjà entendu. C'est toi qui me parlais dans le silence quand j'allais secourir des pauvres ou calmer par la prière les angoisses d'une âme agitée. Et dans cet instant même, n'est-ce pas toi, chère vision, qui a passé dans l'obscurité transparente et qui est penchée lentement sur mon chevet? N'est-ce pas toi qui me murmures d'une voix caressante des paroles d'espoir? Qui es-tu? Mon ange gardien ou un perfide tentateur? Résous mes doutes. Peut-être que tout ceci n'est qu'une vaine illusion, l'erreur d'une âme qui ne se connaît plus. Peut-être qu'une toute autre destinée m'attend, mais c'en est fait. Dès à présent, je te remets ma vie. Je verse mes larmes devant toi. J'implore ton secours. Imagine-toi, je suis seul, personne ne me comprend. Ma raison succombe dans la lutte et je suis condamné à périr en silence. Je t'attends. Par un seul regard, ranime les espérances de mon cœur, ou bien interromps ce rêve d'un lourd sommeil par un reproche hélas trop mérité. J'ai fini. Je n'ose relire. Je me meurs de honte et d'effroi. Mais votre honneur est ma garantie. Je m'y confie hardiment. Tatiana laissa échapper un tantôt un sourire, tantôt un faible gémissement. La lettre tremble dans sa main. Un pain cacheté se dessèche sur ses lèvres brûlantes. Sa tête se penche languissamment sur son épaule d'où est descendue sa légère chemise. Mais voilà que le scintillement des rayons de la lune s'éteint déjà. La vallée apparaît à travers le brouillard. Le ruisseau laisse voir ses reflets d'argent, La cornemuse du vacher réveille le village. C'est le matin. On se lève. Tatiana ne remarque rien. Elle ne voit pas l'aurore qui vient l'éclairer. Elle se tient la tête basse et n'appuie pas sur l'ailette son cachet ciselé. Cependant, ouvrant doucement la porte, voilà que la vieille Philippievna lui apporte une tasse de thé sur un plateau. « Il est temps, mon enfant, lève-toi. Oh, mais tu es déjà toute prête, ma belle. Oh, mon petit oiseau matinal. Hier, oh, j'ai bien eu peur pour toi, mais grâce à Dieu, tu te portes bien aujourd'hui. Il ne reste plus trace de l'angoisse de la nuit. Ta figure est comme une fleur de pavot. » Ah, nourrice, fais-moi la grâce. Daigne seulement ordonner, ma petite mère. Bon, ne t'imagines point, je t'en prie, un soupçon, mais tu vois bien, oh, ne me refuse pas. Ma petite, Dieu m'est témoin. Envoie seulement en secret ton petit-fils avec ce billet chez Honné, chez lui, chez ce voisin, et surtout qu'il ne dise pas un mot, qu'il ne me nomme pas. Mais chez qui envoyer, ma petite? Je suis devenu bien bête, il y a tant de voisins dans les environs. Je ne saurais pas seulement les compter. Oh, mais que tu es lente à deviner, nourrice. Oh, mon cher cœur, je suis vieille. Je suis vieille, Tania. Mon esprit s'engourdit. Il fut un temps où j'étais une fine mouche, un seul signe de la volonté des maîtres. Oh, nourrice, nourrice, que dis-tu là? Qu'ai-je à faire de ton esprit? Tu vois bien qu'il s'agit d'une lettre pour Onéguin. Ah, j'entends, j'entends, ne te fâche pas, mon âme. Tu sais bien que j'ai l'entendement dur. Mais pourquoi as-tu pâli de nouveau? Ce n'est rien, nourrice, seulement n'oublie pas d'envoyer ton petit-fils. Le jour se passe, point de réponse. Un autre jour commence, rien encore. Pâle comme une ombre, habillée dès le matin, Tatiana attend, attend toujours. Arrive l'adorateur d'Olga. « Dites donc, où est votre ami ?» lui demande la maîtresse de la maison. « Il nous a tout à fait oublié. » Tatiana rougit soudain. « Ben, il avait promis de venir aujourd'hui, » répond Lansky à la bonne dame. « La poste l'aura sans doute retenu. » Tatiana baissa les yeux comme à une cruelle moquerie. Il se faisait tard. Sur la table sifflait le brillant samovar du soir, échauffant une théière de la Chine. Une légère vapeur se déroulait au-dessus. Déjà versé par la main d'Olga, le thé parfumé coulait en jets sombres dans les tasses. Un petit domestique présentait la crème. Tatiana se tenait devant la fenêtre. Elle avait soufflé sur les vitres froides et rêveuses. Elle avait tracé du bout d'un doigt, sur la glace terminée, les deux lettres chères E, O. Mais son âme était pleine d'angoisse et des larmes voilaient son regard éteint. Tout à coup, des pas de chevaux, son sang se fige. Plus près, un galop et dans la cour, Onéguin. Ah ! Et plus légère qu'une biche, Tatiana s'élance dans la première antichambre, puis du perron dans le jardin. Elle court, elle vole, elle n'ose pas regarder en arrière. Elle traverse en un clin d'œil le parterre, le petit pont, la prairie, l'allée qui mène au lac, le bois de bouleau, brise un buisson de seringas, franchit les plates-bandes et haletante sur un escabeau, tombe. Il est ici. Onéguin est ici. Ô grand Dieu, qu'a-t-il pensé? Son cœur, plein d'angoisse, conserve pourtant je ne sais quelle vague espérance. Elle frémit, elle écoute. N'est-ce pas lui qui vient? Personne. En ce moment, dans le potager, les servantes cueillaient des framboises sur les tiges et, suivant l'ordre, chantaient en chœur. Cet ordre était donné pour que, occupés de leur chant, ces bouches roses ne puissent manger les fruits du Seigneur. Notable invention de la fidèle villageoise. Chanson des servantes. Belle jeune fille, compagne bien-aimée, jouez à cœur joie, divertissez-vous, petites âmes. Entonnez une chanson, notre vieille chanson, attirez un beau garçon vers votre ronde. Quand nous aurons attiré le beau garçon, dès que nous le verrons de loin, éparpillons-nous de tous côtés et lapidons-le avec des cerises, des framboises et des groseilles rouges. Ne viens pas écouter nos jolies chansonnettes, ne viens pas épier nos jeux de jeunes filles. Elle chante et prêtant une oreille distraite à leur voix sonore, Tatiana attend avec impatience que la palpitation de son cœur se calme, que la rougeur de sa joue s'efface. Mais son cœur palpite toujours et sa joue rougit davantage. Ainsi un pauvre papillon, fait prisonnier par un étourdi de collège, agite en vain son aile diaprée. Ainsi, dans le jeune blé qu'il broutait, un pauvre lièvre frémit à la vue d'un chasseur qui le met en joue derrière un buisson. Elle poussa enfin un long soupir, se leva de son escabeau et se mit à marcher. Mais à peine avait-elle tourné l'allée, que, droit devant elle, le regard étincelant et pareil à une apparition menaçante, se dresse son éguine. Elle s'arrête comme frappée de la foudre. Mais, ami, je ne me sens pas d'humeur à vous raconter aujourd'hui les résultats de cette rencontre inattendue. Il faut que je me repose après le long discours que j'ai tenu. Je finirai plus tard, comme je pourrai.